Oui, Arsène Lupin était là. En théorie comme en fait, il y était. Ni l'un ni l'autre n'en pouvait plus douter. Il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique, à savoir que dans quelque refuge ténébreux, gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre aventurier.
« Et s'il meurt ?»
prononça M. Filleul à voix basse. « S'il meurt, et que ses complices en aient la certitude, veillez au salut de Mademoiselle de Saint-Véran, monsieur le juge, car la vengeance sera terrible. » Quelques minutes plus tard, et malgré les instances de M. Filleul, qui se fût volontiers accommodé de ce prestigieux auxiliaire, Beautrelet, dont les vacances expiraient ce même jour, reprenait la route de Dieppe. Il débarquait à Paris vers 5 heures, et à 8 heures, franchissait en même temps que ses camarades la porte du lycée Janson. Ganimard, après une exploration aussi minutieuse qu'inutile des ruines d'Ambrumésie, rentra par le rapide du soir. En arrivant chez lui, il trouva ce pneumatique. « Monsieur l'inspecteur principal, ayant eu un peu de loisir à la fin de la journée, j'ai pu réunir quelques renseignements complémentaires qui ne manqueront pas de vous intéresser. Depuis 1 an, Arsène Lupin vit à Paris sous le nom d'Étienne de Vaudrex. C'est un nom que vous avez pu lire souvent dans les chroniques mondaines ou les échos sportifs. Grand voyageur, il fait de longues absences pendant lesquelles il va, dit-il, chasser le tigre au Bengale ou le renard bleu en Sibérie. Il passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on puisse préciser de quelles affaires il s'agit. Son domicile actuel, 36 rue Marbeuf. Je vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est à proximité du bureau de poste numéro 45. Depuis le jeudi 23 avril, veille de l'agression d'Ambrumésie, on n'a aucune nouvelle d'Étienne de Vaudrex. Recevez, monsieur l'inspecteur principal, avec toute ma gratitude, pour la bienveillance que vous m'avez témoignée, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Isidore Beautrelet. Post-scriptum. Surtout, ne croyez pas qu'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces informations. Le matin même du crime, lorsque monsieur Filleul poursuivait son instruction devant quelques privilégiés, j'avais eu l'heureuse inspiration d'examiner la casquette du fugitif avant que le pseudo-chauffeur ne fût venu la changer. Le nom du chapelier m'a suffi, vous pensez bien, pour trouver la filière qui m'a fait connaître le nom de l'acheteur et son domicile. Le lendemain matin, Ganimard se présentait au 36 de la rue Marbeuf. Renseignement pris auprès de la concierge, il se fit ouvrir le rez-de-chaussée de droite, où il ne découvrit rien que des cendres dans la cheminée. 4 jours auparavant, 2 amis étaient venus brûler tous les papiers compromettants. Mais au moment de sortir, Ganimard croisa le facteur qui apportait une lettre pour M. de Vaudrex. L'après-midi, le parquet, saisi de l'affaire, réclamait la lettre. Elle était timbrée d'Amérique et contenait ces lignes écrites en anglais.
« Monsieur, je vous confirme la réponse que j'ai faite à votre agent. » Dès que vous aurez en votre possession les 4 tableaux de M. de Gesvres, expédiez-les par le mode convenu. Vous y joindrez le reste si vous pouvez réussir ce dont je doute fort. Une affaire imprévue m'obligeant à partir, j'arriverai en même temps que cette lettre, vous me trouverez au Grand Hôtel. Arlington.
Le jour même, Ganimard, muni d'un mandat d'arrêt, conduisait au dépôt le sieur Arlington, citoyen américain, inculpé de recel et de complicité de vol. Ainsi donc, en l'espace de 24 heures, grâce aux indications vraiment inattendues d'un gamin de 17 ans, tous les nœuds de l'intrigue se dénouaient. En 24 heures, ce qui était inexplicable devenait simple et lumineux. En 24 heures, le plan des complices pour sauver leur chef était déjoué. La capture d'Arsène Lupin, blessé, mourant, ne faisait plus de doute. Sa bande était désorganisée. On connaissait son installation à Paris, le masque dont il se couvrait. Et l'on perçait à jour, pour la première fois, avant qu'il eût pu en assurer la complète exécution, un de ses coups les plus habiles, et le plus longuement étudié. Ce fut dans le public comme une immense clameur d'étonnement, d'admiration et de curiosité. Déjà, le journaliste rouennais, en un article très réussi, avait raconté le premier interrogatoire du jeune rhétoricien, mettant en lumière sa bonne grâce, son charme naïf et son assurance tranquille. Les indiscrétions auxquelles Ganimard et M. Filleul s'abandonnèrent malgré eux, entraînés par un élan plus fort que leur orgueil professionnel, éclairèrent le public sur le rôle de Beautrelet au cours des derniers événements. Lui seul avait tout fait. À lui seul revenait tout le mérite de la victoire. On se passionna. Du jour au lendemain, Isidore Beautrelet fut un héros. Et la foule, subitement engouée, exigea sur son nouveau favori les plus amples détails. Les reporters étaient là. Ils se ruèrent à l'assaut du lycée Janson de Sailly, guettèrent les externes au sortir des classes et recueillirent tout ce qui concernait, de près ou de loin, le nommé Beautrelet. Et l'on apprit ainsi la réputation dont jouissait parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Herlock Sholmès. Par raisonnement, par logique et sans plus de renseignements que ceux qu'il lisait dans les journaux, il avait à diverses reprises annoncé la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui. C'était devenu un divertissement au lycée Janson que de poser à Beautrelet des questions ardues, des problèmes indéchiffrables. Et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse, au moyen de quelles ingénieuses déductions, il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses. 10 jours avant l'arrestation de l'épicier Joris, il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il affirmait dès le début, à propos du drame de Saint-Cloud, que le concierge était l'unique meurtrier possible. Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouva en circulation parmi les élèves du lycée, opuscule signé de lui, imprimé à la machine à écrire et tiré à 10 exemplaires. Comme titre, Arsène Lupin, sa méthode, en quoi il est classique et en quoi original. Suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française. C'était une étude approfondie de chacune des aventures de Lupin, où les procédés de l'illustre cambrioleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire, où l'on montrait le mécanisme même de ses façons d'agir, sa tactique toute spéciale, ses lettres aux journaux, ses menaces, l'annonce de ses vols, bref, l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle s'offrait presque aux coups machinés contre elle et que tout s'effectuait, pour ainsi dire, de son propre consentement. Et c'était si juste comme critique, si pénétrant, si vivant, et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle, qu'aussitôt les rieurs passèrent de son côté, que la sympathie des foules se détourna sans transition de Lupin vers Isidore Beautrelet, et que dans la lutte qui s'engageait entre eux, d'avance on proclama la victoire du jeune rhétoricien. En tout cas, cette victoire, Monsieur Filleul, aussi bien que le parquet de Paris, semblait jaloux de lui en réserver la possibilité. D'une part, en effet, on ne parvenait pas à établir l'identité du sieur Arlington, ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de Lupin. Compère ou non, il se taisait obstinément. Bien plus, après examen de son écriture, on n'osait plus affirmer que ce fut lui l'auteur de la lettre interceptée. Un sieur Arlington, pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banque-notes, était descendu au Grand Hôtel. Voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer. D'autre part, à Dieppe, M. Filleul couchait sur les positions que Beautrelet lui avait conquises. Il ne faisait pas un pas en avant. Autour de l'individu que Mademoiselle de Saint-Véran avait pris pour Beautrelet, la veille du crime, même mystère. Même ténèbres aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des quatre Rubens. Qu'étaient devenus ces tableaux? Et l'automobile qui les avait emportés dans la nuit? Quel chemin avait-elle suivi? À Luneray, à Hierville, à Yvetot, on avait recueilli des preuves de son passage, ainsi qu'à Caudebec-en-Caux, où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur. Mais quand on poussa l'enquête à fond, il fut avéré que ladite automobile était découverte et qu'il eût été impossible d'y entasser quatre grands tableaux sans que les employés du bac les eussent aperçus. C'était tout probablement la même auto. Mais alors, la question se posait encore. Qu'étaient devenus les quatre Rubens? Autant de problèmes que M. Filleul laissait sans réponse. Chaque jour, ses subordonnés fouillaient le quadrilatère des ruines. Presque chaque jour, il venait diriger les explorations. Mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, si tant est que l'opinion de Beautrelet fût juste, de là à découvrir cet asile, il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Aussi était-il naturel que l'on se retournât vers Isidore Beautrelet, puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui, en dehors de lui, se reformait plus intense et plus impénétrable. Pourquoi ne s'acharnit-il pas après cette affaire? Au point où il l'avait menée, il lui suffisait d'un effort pour aboutir. La question lui fut posée par un rédacteur du Grand Journal qui s'introduisit dans le lycée Janson sous le faux nom de Bernot, correspondant de Beautrelet. À quoi Isidore répondit fort sagement « Cher monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambrioleurs et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet. Nous sommes en mai. Et je ne veux pas échouer. Que dirait mon brave homme de père? Mais que dirait-il si vous livrez à la justice Arsène Lupin? Bah, y a-t-on pour tout? Aux prochaines vacances?
Celle de la Pentecôte?
Oui. Je partirai le samedi 6 juin par le premier train.
Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera pris.
Me donnez-vous jusqu'au dimanche?
Pourquoi ce retard? Riposta le journaliste du ton le plus sérieux.
Cette confiance inexplicable, née d'hier et déjà si forte, tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme, bien qu'en réalité, les événements ne la justifiassent que jusqu'à un certain point. N'importe. On croyait. De sa part, rien ne semblait difficile. On attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition, d'expérience et d'habileté. Le 6 juin. Cette date s'étalait dans tous les journaux. Le 6 juin, Isidore Beautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté.
« À moins que d'ici là, il ne s'évade !»
objectaient les derniers partisans de l'aventurier.
« Impossible ! Toutes les issues sont gardées !»« À moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures !»
reprenaient les partisans, lesquels eussent mieux aimé la mort que la capture de leur héros. Et la réplique était immédiate.
« Allons donc ! Si Lupin était mort, ses complices le sauraient, et Lupin serait vengé ! Beautrelet l'a dit !»
Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de journalistes guettaient Isidore à la gare Saint-Lazare. Deux d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage. Il les supplia de n'en rien faire. Il s'en alla donc seul. Son compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil. En rêve, il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient. À son réveil, en vue de Rouen, il était encore seul. Mais sur le dossier de la banquette opposée, une large feuille de papier, fixée par une épingle à l'étoffe grise, s'offrait à ses regards. Elle portait ces mots. « Chacun ses affaires. Occupez-vous des vôtres. Sinon,
Tant pis pour vous.
Parfait,
dit-il en se frottant les mains.
Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace est aussi stupide que celle du pseudo-chauffeur. Quel style! On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume.
On s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité normande. En gare, Isidore fit 2 ou 3 tours sur le quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son compartiment quand un cri lui échappa. En passant près de la bibliothèque, il avait lu distraitement à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen ces quelques lignes dont il percevait soudain l'effrayante signification.
Dernière heure. On nous téléphone de Dieppe que cette nuit, des malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumésie, ont ligoté et bâillonné Mademoiselle de Gèvres et ont enlevé Mademoiselle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été relevées à 500 mètres du château et tout auprès, on a retrouvé une écharpe également maculée de sang. Il y a lieu de craindre que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée.
Jusqu'à Dieppe, Isidore Beautrelet resta immobile. Courbé en deux, les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure, il réfléchissait. À Dieppe, il loua une auto. Au seuil d'Ambrumésie, il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle.
« Vous ne savez rien de plus ?»
demanda Beautrelet.
« Rien, j'arrive à l'instant. »
Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Filleul et lui remettait un morceau de papier, froissé, déchiqueté, jauni, qu'il venait de ramasser non loin de l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Beautrelet, en disant
« Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. »
Isidore tourna et retourna le morceau de papier. Couvert de chiffres, de points et de signes,
« Voyons voir. 2.1.1.2.2.1. Deuxième ligne. 1.1.1.2.2.2.4.3.2.2. Troisième ligne. 0.4.5. .2.4.2.2. Quatrième ligne. DF. Surmonté d'une barre. Rectangle avec coin. 19F. Croix 44. Triangle avec point. 357. Triangle avec point. Cinquième et dernière ligne. 13.53.2.25.2.